Alors, on cherche toujours l'hélicoptère de Stéphane Roy, PDG de Savoura, et de son fils, qui sont disparus, on suppose, posés ou écrasés, on ne sait pas, à la suite d'un vol en hélicoptère. Les autorités en sont à leur cinquième journée de recherche. On se demande comment un appareil peut disparaître des balises comme ça. Ben, j'ai un petit peu ma petite idée. Je sais que tout le monde me parle, oui, mais la boîte noire. La boîte noire, c'est pas pour les repérer. La boîte noire, c'est après. Ça n'émet pas d'onde. C'est pour comprendre ce qui s'est passé après. Alors, c'est une boîte super résistante à tout, y compris au feu. C'est des balises de détresse qui doivent s'activer dans ce temps-là. On va vérifier, voir si ça se tient, ce que je dis. On est avec Patrick Lafleur, qui est chef pilote et instructeur à l'école de pilotage passeport hélico. Bonjour, M. Lafleur.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien, et vous?
Oui, ça va très bien. Alors, comment est-ce possible qu'on perd un hélicoptère? Qu'est-ce qui se passe? Nos radars, ils disparaissent des radars, puis c'est tout?
Bien, en fait, il y a plusieurs éléments là-dedans. Premièrement, lorsque ce sont des vols à basse altitude, parce que typiquement, les hélicoptères ne volent pas très, très haut. On parle d'environ 1000 à 2000 pieds du sol. Ils ne sont pas suivis au radar comme tel. En plus, c'est des vols qu'on appelle non contrôlés. Donc, on n'est pas en communication directe avec la tour de contrôle. À ce moment-là, il était...
On est juste en approche, c'est ça? On doit l'être en approche, puis c'est tout?
Pas nécessairement. Par exemple, s'il allait atterrir ou s'il décollait de la région de Paran, il n'y a pas d'aéroport contrôlé dans ce secteur-là. Donc, il n'était certainement pas en communication radio.
Ah ben oui, il n'y a pas besoin de piste. C'est un hélicoptère, il se pose sur n'importe quoi qui est à peu près droit, là.
Oui, exactement, exactement. Donc, certainement qu'il avait pas, il n'était pas suivi par le radar. Ça, c'est une chose. Par la suite, ben, vous parliez de la radio-balise de détresse. En fait, c'est deux choses différentes. La boîte noire, c'est une chose. La radio-balise de détresse en est une autre. Il semblerait que dans ce cas-là, la radio-balise de détresse n'ait pas fonctionné par elle-même. Parce que normalement, avec un impact relativement fort avec le sol, la radio-balise s'engage automatiquement et émet des signaux. Et on est très facilement repéré par les satellites à ce moment-là. Mais ce n'est pas le cas dans cet événement-là. Donc,
alors, il y a deux possibilités. Soit la balise de détresse ne s'est pas activée, soit elle s'active, mais on ne perçoit pas le système. Est-ce que ça se peut qu'on ne perçoive pas le signal d'une balise de détresse? Par exemple, je ne sais pas moi, un appareil qui tombe dans l'eau. Je vous dis ça.
Ce serait la seule possibilité. Mais malgré tout, si la balise a fonctionné une trentaine de secondes, à ce moment-là, c'est quasi certain que le signal va être repéré. Donc, oui, effectivement.
Y compris dans une forêt, si admettons ils sont dans une forêt, le signal a passé.
Oui, d'habitude, oui, parce que même si on est les arbres ont 75-100 pieds de haut, c'est pas assez pour restreindre à ce point le signal. Et puis, après plusieurs jours comme ça, ça serait très, très, très surprenant que si la balise avait fonctionné, elle n'ait pas été repérée. Sauf, par exemple, comme on disait tantôt, si l'hélicoptère tombe dans l'eau, la radio-balise s'active, mais très brièvement, et l'hélicoptère coule, à ce moment-là, oui, peut-être que le signal ne se rendra pas, effectivement.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver vous-même en situation critique?
J'ai eu quelques situations particulières de problèmes techniques, jamais au point d'avoir à utiliser ma radio-balise de détresse, une chance. C'est un système aussi qu'on peut très bien enclencher manuellement si jamais un pilote atterrit de précaution parce qu'il y a un certain problème. Une fois rendu au sol, un peu mal pris, coincé dans la forêt, il va actionner sa radio-balise de détresse manuellement et être repéré rapidement. Donc, on aurait pu espérer que ça puisse être le cas pour M. Roy, mais il semblerait que non.
Est-ce que les petits hélicoptères comme ça sont munis d'une boîte noire pour après?
Non, on n'est pas munis d'une boîte noire. Les avions et les hélicoptères de l'aviation générale, les petits avions, on parle, ne sont pas munis d'une boîte noire. Il y a certains avions, je ne connais pas précisément la réglementation à ce niveau-là, mais lorsque l'avion peut transporter plus de tant de passagers, à ce moment-là, il doit être muni d'une boîte noire. Mais disons que les petits hélicoptères, petits avions de 4, 5, 6 à 9 passagers ne sont pas obligés d'en transporter et la plupart n'en transportent pas. Donc, même après, même si on retrouvait l'hélicoptère en question, on ne pourrait, on n'aurait rien pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, sauf des analyses sur la structure de l'appareil, des analyses de trajectoire, si l'hélicoptère a percuté le sol à haute vitesse. Là, on peut en apprendre un peu plus à ce moment-là, mais pas avec de l'équipement comme tel.
Est-ce que vous enseignez ça à vos élèves?
Oui, on enseigne ça. Ça fait partie des connaissances générales que les pilotes acquièrent dans leur formation. Donc, on leur parle de radio-balise de détresse, on leur apprend comment l'utiliser si on venait un jour à devoir l'utiliser manuellement. On leur enseigne une multitude de choses qui sont d'aspects généraux, en leur disant qu'idéalement, ils n'auraient jamais besoin de se servir de ça dans leur vie, mais que ce n'est pas impossible. Et malheureusement, ben cet accident-là nous montre que oui, c'est possible.
Bien, on peut avoir des accidents partout, sauf que tu es... Un avion, au moins, c'est si je ne sais pas, s'il y a une panne majeure, peut essayer de faire du vol plané pendant un certain temps. Un hélicoptère, ça ne fonctionne pas comme ça, là. C'est du surplace.
Ben, contrairement à ce que les gens pensent, oui, l'hélicoptère plane, mais l'hélicoptère plane à peu près deux à trois fois moins qu'un avion. Mais malgré tout, on plane sur une certaine distance et on a un avantage sur l'avion, c'est qu'on peut se poser, même sans notre moteur, on peut se poser sur une très, très courte distance. On n'a pas besoin d'avoir une longue piste pour un atterrissage. Donc, dès qu'on a un champ dégagé, un champ qui mesure peut-être un 400-500 pieds de long, disons un 150 mètres et plus, on peut faire un atterrissage avec la manœuvre qu'on appelle l'autorotation sans la puissance du moteur. Ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité. C'est une des raisons pour laquelle les pilotes d'hélicoptères volent généralement à plus basse altitude. Ce qui n'est pas évident dans le cas de M. Roy, c'est que s'il est tombé dans la forêt, c'est extrêmement difficile. En fait, là, à moins de passer précisément directement au-dessus de l'épave de l'hélicoptère et de regarder spécifiquement à ce moment-là au sol, c'est vraiment extrêmement difficile de trouver un aéronef qui serait atterri dans la forêt. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Là,
ah oui, donc vous ne verriez pas des personnes, ça serait très dur à voir. Ce que je veux dire par là, c'est que si on voit difficilement un appareil, on voit encore moins des personnes. Donc, si ça vous arrive, ben restez proche de votre véhicule. Partez pas en forêt, en expédition. Là, c'est certain qu'on ne vous verra pas là.
Oui, c'est le cas. Mais par contre, bon, selon certains principes de survie en forêt, si on peut se déplacer à un endroit plus découvert, ben ça vaut la peine à ce moment-là. Et pour émettre des signaux si jamais on entend des avions passer. Mm-hmm. Donc, il ne s'agit pas toujours de rester directement à côté de l'hélicoptère. Si on est en mesure de se déplacer, on prendrait notre radio-balise de détresse avec nous, on l'activerait et on irait, disons, essayer de rejoindre un terrain convenable pour survivre. Et pour émettre des signaux de façon la plus évidente possible, pour être vu, effectivement. Ça, c'est la survie en forêt, là, nous dicte cette conduite-là.
Bon, ben, on va souhaiter bonne chance à tout le monde. Il y a même l'armée qui est venue nous aider. Fait que d'ici ce temps-là, ben, c'est énervant. Je ne veux même pas imaginer ce que les familles ressentent. Mais écoutez, on ne sait jamais. Tout peut bien se terminer. Merci beaucoup, M. Lafleur.
On l'espère. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée. C'était Patrick Lafleur, chef pilote et instructeur à l'école de pilotage Passeport Hélico. Au retour de la pause, le prochain agent, James Bond 007, sera une femme. Moi, je trouve ça intéressant. Luc Dupont nous en jase. Tout de suite après.